Stop, c'est parti.
Relancez-moi la télé.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé, en fait.
MJV. C'est vous qui représentez le système.
Hello. Il est 9h40 sur France Inter. L'instant MC, parti, profitez-en.
Vous êtes en direct, allez-y.
Il y a en ce moment des jours fériés en pagaille. Vous avez le choix. Soit lire les journaux vous expliquant qu'il faudrait en supprimer, soit lire tout court. Car vous avez du temps pour approfondir, pour découvrir, pour réfléchir. Je vous propose donc un site doté d'un nom anglo-saxon, The Conversation. Ça veut dire la conversation. C'est en français, c'est gratuit. C'est fait par une équipe de journalistes qui demandent à des universitaires d'éclairer l'actualité. Bref, pour les chercheurs, c'est un accès au grand public. Pour nous, c'est l'occasion d'avoir accès à mille et un spécialistes, experts sur mille et un sujets. Ça nous dit l'état de la recherche. Ça nous dit aussi combien ces intellectuels s'avèrent invisibles dans les médias.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Didier Pourquerie.
Bonjour.
Voilà, ancien rédacteur en chef au Monde. Vous allez nous raconter comment vous avez installé The Conversation qui arrivait d'Australie en France. Et puis nous aurons au téléphone également tout à l'heure. Violaine appelle, mais je vous dis bonjour dès maintenant. Bonjour, vous nous entendez?
Bonjour.
Voilà,
je
vous êtes
très bien.
Voilà, vous êtes en Lorraine, vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université de Lorraine. On va parler avec vous et avec Didier Pourquerie dans un instant de ce projet qui prend forme et qui rencontre beaucoup de succès. Tout de suite, les mardis en série avec l'ami Romain Nigita. Salut Romain.
Bonjour Sonia.
Tout va bien?
Ça va très bien et vous?
Alors, avant de parler des Simpsons, parce qu'il faut parler des Simpsons, un mot pour vous signaler cet article du Guardian. La BBC, ici, ITV et Channel 4, soit des chaînes privées et des chaînes publiques britanniques, réfléchissent ensemble à créer une plateforme pour visionner toutes sortes de programmes, dont des séries, et ce pour contrer Netflix et Amazon, qui sont de plus en plus puissants outre-Manche. Alors, sachez que France Télévisions, chez nous, mène exactement la même réflexion, et que M6 s'est déjà dit favorable à un projet commun. Voilà, ça c'est dit. Oh, ce générique, toute notre enfance. Portrait totalement déglingué, parfois cruel, d'une famille américaine. C'est les Simpsons. Depuis 1989, ça fait 636 fois que vous l'avez entendu, un record, Romain.
Et oui, les Simpsons viennent de battre le record du nombre d'épisodes pour une série américaine de prime time. Mm-hmm. Record jusque-là détenu par Gunsmoke Police des Plaines, une série western en 635 épisodes qui avait été diffusée entre 1955 et 1975. Et pour l'occasion, les Simpsons se sont fendus d'un clin d'œil, un duel au pistolet, le shérif de Gunsmoke contre Maggie, la petite dernière avec sa tétine.
Can't let you do it. Can't let you break my record.
Et c'est Maggie qui gagne. Un petit mot quand même sur les soap-opéras quotidiens comme Les Feux de l'amour. Ils durent depuis bien plus longtemps, mais c'est vraiment un système de production totalement à part.
Voilà, alors Les Simpsons, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série en dessin animé. C'est une série animée qui est diffusée sur la chaîne Fox. Est-ce qu'elle a évolué en 636 épisodes, Romain ?
Bon, alors ça reste, comme vous l'avez dit, la vie quotidienne d'une famille d'Américains moyens. Mmh. Et donc, on pourrait penser que ces personnages animés sont immortels, mais il n'en est rien. En 2000, les scénaristes décident de secouer le train-train en tuant une de leurs créatures, Maude Flanders, la voisine des Simpsons. Autre décès réel, celui-là, celui de la comédienne qui prêtait sa voix à l'institutrice, Madame Crapabel. Elle n'a pas été remplacée et le personnage a disparu de la série. Autre bouleversement qui montre que les Simpsons suivent aussi l'évolution de la société américaine. En 2005, Patty, l'une des deux sœurs de Marge, révèle qu'elle est lesbienne.
Bah tiens, et les évolutions en coulisses aussi, ça a fait couler de l'encre.
Et oui, puisque les négociations salariales des acteurs qui sont les voix américaines de la série font régulièrement la une de la presse hollywoodienne et n'imaginez pas qu'on peut les remplacer sans que le public ne remarque rien. Sauf qu'aujourd'hui, les audiences des Simpsons sont loin de ce qu'elles étaient dans les années 90. Bon, il faut dire que la série est un peu moins pertinente qu'avant et du coup, les acteurs s'accrochent pour ne pas voir leur rémunération chuter trop méchamment. Mm-hmm. Celui qui n'a pas réussi à sauver son bout de gras, c'est le compositeur de la musique. En place depuis 27 ans, Alf Closen était viré car il employait un orchestre de 35 musiciens pour chaque épisode.
Ça, c'est vraiment une autre époque. Voilà. Et en 636 épisodes, on n'évite pas les polémiques, dont certaines qui sont toutes récentes.
Oui, bah pour les plus anciennes, on se souvient qu'au démarrage, Bart était accusé d'être un mauvais exemple pour la jeunesse. Mm-hmm. Le président Bush père avait même regretté que ses concitoyens ressemblaient trop souvent aux Simpsons. Et aujourd'hui, c'est le personnage de Apu, le tenancier indien de la supérette de la ville de Springfield, qui fait dire à certains que la série serait raciste.
Toi aussi, tu détestes les fleurs de lotus? Oh, j'aime autant pas en parler, ça me dégoûte.
Non, non, c'est le signe que l'heure est venue d'épouser celle qu'on m'a choisie.
Oh, bravo, félicitations.
Non, non, vous n'avez pas compris.
Ben, pas vraiment.
Alors, vous l'avez entendu, Apu est en effet un stéréotype. Mm-hmm. Alors, c'est aussi le cas du chef de la police qui se gaffe de donuts ou du patron de la centrale nucléaire dépeint comme un milliardaire machiavélique. Mm-hmm. Mais preuve que les mentalités ont changé plus vite que la série, Apu est un stéréotype certes, peut-être acceptable en 1989, mais devenu totalement intolérable aujourd'hui. Mais Matt Groening, le créateur des Simpsons, a réagi il y a quelques jours à cette polémique. Je le cite, « Nous vivons une époque où les gens aiment prétendre qu'ils sont offusqués. »
Bien, bien, bien. Alors voilà, hein, Matt Groening qui lui aussi évolue puisqu'il continue à travailler, il continue à créer. La prochaine fois, ce sera sur Netflix.
Et oui, ça va s'appeler. Ça ne sera pas à la télé. Ça sera une série qui s'appellera Disenchantement. Voilà. Désenchantement. Et les premiers épisodes seront disponibles d'ici la fin de l'année.
En attendant, les Simpsons, c'est toujours sur W9.
L'instant M, l'actualité des médias sur France Inter.
Mes invités sont ce matin Didier Pourquery et Violaine Appel qui est au téléphone avec nous ce matin, enseignante chercheuse, je le rappelle, à l'Université de Lorraine. Elle nous appelle de Nancy. Didier Pourquery, on peut peut-être rappeler le principe et l'histoire de ce site The Conversation.
The Conversation a été lancé à Melbourne en 2011.
En Australie.
Et en Australie. Et sur une idée très simple, faire participer les enseignants-chercheurs au débat citoyen. Mm-hmm. Et deuxième idée simple, un site gratuit, sans pub, qui vit des adhésions. Retenez ce mot parce que les modèles économiques d'adhésion par rapport au modèle d'abonnement sont en train de se développer.
Alors, il faut que nous expliquiez parce que qui paye, c'est important pour
qui
savoir
paye,
qui parle.
Qui paye, ce sont des institutions qui sont membres des différentes associations nationales de The Conversation. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est un réseau qui est présent dans 8 pays et dans chaque pays, c'est une association. En France, c'est une association 1901.
Oui.
Et nous avons 80 membres, mm-hmm, qui sont aussi bien la conférence des présidents d'université que l'université de Lorraine, que l'INRA, que des gens comme ça qui sont membres de cette association.
67 000 universitaires contribuent à travers le monde au site. Vous en avez 2 000 en France à qui vous faites régulièrement appel, qu'on peut lire en France, mais on peut lire également des traductions de papiers étrangers.
Oui, on traduit également des papiers qui viennent d'Australie, de Grande-Bretagne. On est dans pas mal de pays différents, y compris l'Indonésie, mm-hmm, ou le Canada. Et on traduit de temps en temps, mais disons qu'en France aujourd'hui, où on a vraiment une grosse base d'auteurs, c'est surtout des textes français maintenant.
Alors, je m'adresse à l'ancien rédacteur en chef du Monde, journal quotidien. Évidemment, là, vous proposez un média de complément, c'est-à-dire que The Conversation ne suffit pas à s'informer en réalité.
C'est un média de complément. C'est un média qui traite de l'actualité. Vous savez, quand on parle d'actualité, il y a deux éléments dans l'actualité,
oui,
vous le savez très bien. Il y a l'information, mm-hmm, et il y a le débat. Et l'information, aujourd'hui, elle est menacée par, évidemment, les fake news. Donc face à ça, l'universitaire, il apporte son travail, ses travaux, ses recherches, souvent pointues. Alors bien sûr, il peut pas intervenir sur tous les éléments de l'actualité, mais on est un média d'actualité. Mmh. Et deuxièmement, c'est le débat. Alors le débat aujourd'hui, il est menacé, ça vous le savez très bien, par les commentaires. C'est-à-dire que tout le monde est vecteur de commentaires,
ouais,
et tout le monde raconte sa vie quoi sur Internet. Et face à ça, nous, on publie des analyses. C'est pas pareil.
Non.
C'est-à-dire que on prend des faits et on les décortique. Enfin, les enseignants-chercheurs avec l'aide des journalistes. Donc, ce mélange de faits vis-à-vis de fake news et d'analyse vis-à-vis de commentaires, c'est ça qui fait la spécificité au quotidien, puisqu'on publie quand même entre 12 et 13 papiers par jour,
mm-hmm,
notre newsletter quotidienne, qui est lue par 32 000 personnes aujourd'hui, elle se compose de papiers d'actualité, et puis aussi de l'actualité de la recherche, et puis des papiers de rebond. Et quelquefois, ce sont des papiers qu'on peut republier après pour éclairer d'autres éléments d'actualité.
Alors, on va voir avec vous qui aide qui dans cette publication. Violaine Appel, donc au téléphone avec nous depuis Nancy. Donc, que vous écriviez ou que tous vos confrères et consoeurs, collègues, je crois qu'on dit à l'université, publient. En fait, chaque fois qu'ils écrivent pour The Conversation, ils écrivent avec l'aide d'un journaliste.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Les articles sont rédigés toujours en collaboration par un ou plusieurs chercheurs. On peut avoir des articles co-signés et un journaliste donc de la plateforme. Mmh. Et en fait, le journaliste aide le scientifique à trouver un angle, à reformuler éventuellement des passages qui seraient trop pas assez accessibles, pas assez compréhensibles, de trouver un titre, souvent des intertitres, des illustrations. Mais c'est le chercheur qui produit le texte, hein, ça on est bien d'accord, et surtout c'est lui qui décide in fine de publier ou non ce texte.
Et ça c'est très important.
Ça c'est très important parce que c'est cette garantie finalement qui est rassurante par rapport éventuellement à la publication dans des médias plus traditionnels où les chercheurs font part parfois d'une certaine forme de réticence à voir leurs propos décontextualisé ou en tout cas ne pas mise en valeur de la façon.
On va dire les choses clairement, hein, c'est-à-dire le nombre d'universitaires qui ont répondu à une interview télévisée et qui se sont rendus compte que derrière, il restait à peu près 3 fois 30 secondes saucissonnées, montées et complètement dénaturées, qui leur a donné qui a suscité une forme de méfiance, voilà. J'imagine.
Oui, donc, tout à fait.
Oui, ce qui est très important, Violaine Appel, c'est que pour le grand public, c'est une façon d'avoir accès à de la publication, à une publication scientifique, alors que les publications scientifiques elles-mêmes nous sont totalement étrangères à nous, simples
tout
citoyens.
Tout à fait. C'est une façon pour les chercheurs, effectivement, de pouvoir éclairer le débat public et de proposer aux lecteurs des articles autour de l'actualité chaude, mais également de leur actualité scientifique, de façon accessible et de donner finalement aux citoyens des clés de lecture et de compréhension légitimes et accessibles. Donc c'est vrai que les chercheurs aujourd'hui publient à la fois pour leur pair, bien sûr, dans des revues scientifiques qui ne sont pas accessibles au grand public, mais également publient et considèrent, pour ceux qui sont engagés dans la plateforme The Conversation, que ça fait partie de leur activité d'enseignement, enfin de recherche d'enseignants-chercheurs, que de publier des articles accessibles au plus grand nombre.
Alors ça pose
aussi...
Oui, ça
oui,
pose aussi...
Oui. Les établissements aussi soutiennent cette démarche hein, du rapport science-société. Je crois que c'est vraiment important et l'Université de Lorraine a une responsabilité sociétale là-dessus et estime que c'est son rôle aussi que de restituer finalement aux citoyens une recherche qui est financée aussi par des données publiques.
Bien sûr, bien sûr. Ça pose aussi une autre question, hein, ce que vous nous racontez, madame. C'est qu'on sait très bien que parmi les universitaires, seule une poignée d'initiés, de gens branchés, disposant d'un grand réseau de relations, ont accès aux médias généralistes, aux télévisions, aux radios, aux grands quotidiens, etc. Que, bien sûr, la recherche a besoin de ce genre d'outils. Mais ça repose une question fondamentale, Didier Pourquery. Qu'est-ce qu'un intellectuel dans les médias aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un expert? Parce que je pense que c'est de plus en plus flou pour le grand public.
Exactement.
Je vous propose d'écouter Éric Zemmour. Il était l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Vous allez voir cet extrait, c'est qui est la vedette? Qui est l'invité? Quelle est sa légitimité?
Mais pourquoi êtes-vous là, d'ailleurs? Selon vous, pourquoi est-ce que je vous ai invité?
Voilà une bonne question.
Oui.
Parce que mon livre vous a plu, 1, 2, parce que mon livre a du succès, 3, parce que...
Vous croyez qu'on a besoin, j'ai besoin de vous pour avoir du succès ici?
Ah non.
Bon, alors...
Non, vous voulez comprendre pourquoi
non, je voudrais savoir qui vous êtes, Éric Zemmour. Je voudrais que vous me parliez de vos idées, parce que c'est ça qui m'intéresse, ah bah. C'est vos idées.
Oui, parce que qui je suis, ça n'a pas grande importance.
Mais si, qui vous êtes, si, c'est intéressant. Mais c'est intéressant, vous êtes un agitateur d'idées.
Oui, si vous voulez.
Vous êtes historien.
Non, pas historien professionnel, j'aime l'histoire, c'est pas pareil.
Vous aimez l'histoire, vous êtes journaliste.
Oui, en tout cas...
Engagé.
Engagé, absolument.
Mmh. Militant.
Non. Militant, non. Ça veut dire encarté dans un parti.
Non. Ou sympathisant.
Non. Non, je suis un homme libre comme vous, moi.
Didier Pourquery, l'expert, le savant, l'homme de plume, le polémiste, l'universitaire, qu'est-ce que les médias présentent comme un intellectuel? On ne sait plus.
Oui, alors tout à fait. Nous, on a voulu faire entrer dans le débat public et dans le débat citoyen de nouvelles voix.
Mmh.
Et d'ailleurs, sur le site, les 67 000 enseignants-chercheurs dans le monde qui écrivent pour The Conversation, ils sont accessibles à tous via le site.
Oui.
On peut leur parler.
On peut leur poser des questions, ils peuvent poursuivre le débat, etc. On peut les contacter.
Oui. C'est-à-dire, les médias peuvent, d'ailleurs, ils s'en privent pas, les médias français, et c'est très chouette. Nous, on est là pour ça.
Parce que ça fait émerger de nouveaux regards.
Exactement, de nouvelles voix.
Oui.
Et surtout des voix... par rapport à ce qu'on vient d'entendre, des voix fondées sur de la recherche, sur des travaux, sur des gens qui sont spécialisés, par exemple, sur une histoire, l'histoire de l'Europe, par exemple, ça ne s'invente pas.
Non.
Ça. Je veux dire, c'est pas juste une question d'opinion. Et je crois que le grand public se méfie de plus en plus des experts parce que on voit bien qu'il y a un mélange d'opinion et de, j'allais dire de faits, mais je suis même plus sûr de faits, de tendances, de choses dont on parle comme ça. Et je pense que c'est pour ça que l'expertise, il faut la rebâtir.
Que l'expertise, Didier Pourquery, c'est la place de l'université, justement, là-dedans, parce que c'est intéressant. Un Alain Finkielkraut, un Éric Zemmour, un Michel Onfray ne sont pas des universitaires. Zemmour est journaliste, Onfray a soutenu une thèse, Finkielkraut est agrégé normalien, mais c'est des gens qui n'ont pas fait de carrière universitaire. Et au fond, je me suis demandé si un Bernard-Henri Lévy, un André Glucksmann, dans les années 70, qui marque un tournant évident en matière d'intellectuel médiatique, c'est des gens qui ont très vite abandonné leur carrière universitaire. Violaine appelle à l'université de Lorraine. On a l'impression qu'il y a eu un divorce à un moment entre l'intellectuel médiatique et l'université.
Je vais pas pouvoir vous répondre là-dessus, mais ce que je constate, c'est que les universitaires, effectivement, étaient assez frileux à prendre part ou à intervenir dans les médias pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure, que The Conversation vraiment garantit une fiabilité, une légitimité scientifique, et ça effectivement cette caution-là, cette garantie-là favorise un engagement effectivement des anciens chercheurs et des universitaires.
Alors on peut préciser aussi, que chaque contributeur signe une déclaration d'intérêt.
Tout à fait. Alors, ces déclarations d'intérêt accompagnent chaque article et engagent l'indépendance de ses auteurs et permet, et ça c'est très important, au lecteur de situer d'où parle le chercheur. C'est-à-dire qu'un chercheur
qui finance sa recherche,
a un financement spécifique et l'article parlant de cette recherche, le lecteur peut savoir effectivement si le chercheur, d'où parle le chercheur et si le chercheur peut être influencé par le financement de sa recherche ou non dans ce qu'il évoque comme résultat ou dans le cadre de sa démarche scientifique.
Didier Pourquery, je donne des exemples de sujets. Vous allez voir, c'est très très varié. La pollution à l'ozone menace aussi nos assiettes. Les monnaies numériques des banques centrales vers une société sans espèces, point d'interrogation. La science a-t-elle tous les droits sur l'ADN des morts? La commande publique pour promouvoir l'économie circulaire au niveau local? Le colorisme et les crèmes éclaircissantes se lèguent invisibles de la colonisation? Fessées, gifles, cris, les enfants humiliés font des adultes fragilisés. Quel est votre degré de réactivité par rapport à l'actualité et comment vous identifiez les champs sur lesquels vous allez au contraire avoir besoin de creuser, de chercher justement des plumes et des expertises?
La réactivité, on l'a sur toute l'actualité prévisible. Les élections, les choses comme ça, les votes, tout ça. On est présent là-dessus. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple très simple, sur des élections régionales, on a des experts universitaires dans chaque région qui vont nous faire de l'analyse de vote. D'accord ? Les 1 an de Macron, c'est assez facile à prévoir, donc on a publié. D'accord. Pour tout le reste, on s'appuie sur ce qu'on appelle des appels à articles. C'est-à-dire que il y a un attentat terroriste ou quelque chose, tout de suite, on appelle notre communauté. On dit, qui a travaillé sur tel et tel point? Et là, il y a un point que je voudrais souligner parce que là, quand je parle de communauté, c'est un mot un peu galvaudé, mais là, pour le coup, on a une véritable communauté d'enseignants-chercheurs qui ont envie de partager. Et quand ils ont envie de partager, ils se mettent tout de suite dans une démarche de pédagogie. Quand on dit enseignant-chercheur, on dit chercheur, mais on dit aussi enseignant. Et pourquoi ils sont importants dans notre dispositif? Parce que ils se sont souvent des bons pédagogues, même et quelquefois même, j'allais dire, surtout les doctorants, les jeunes qui sont encore
vivier donc, un vivier pour vous lecteurs et pour vous enseignants chercheurs. Merci beaucoup Didier Pourquery, merci Violaine Appel, The Conversation.
Merci.
Donc je rappelle que c'est gratuit et que c'est en français, même si ça porte un nom anglais. C'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sainte-Villers.
Alors, des psys, on veut...